Je commencerai donc par souligner dans le titre « Enceinte sacrée ». Parce qu'on peut rêver, me semble-t-il, d'une justice qui soit désacralisée, qui n'ait plus affaire à ces vains ornements que peuvent être les vêtements, les tribunes, les symboles, etc. Une justice désymbolisée où le pouvoir et son côté majestueux, écrasant, solennel, à la limite mystificateur, soit annulé pour laisser place à une procédure qui n'a pas besoin, après tout, de se draper dans du symbole pour être accrédité. Et donc on peut se demander si le caractère sacralisé du tribunal n'est pas, au fond, une de ces mystifications qui servent à occulter des mécanismes du pouvoir et qui sont largement dénoncés en d'autres lieux, d'ailleurs, en d'autres circonstances. S'agissant de l'art ou de la religion, les critiques ne manquent pas du caractère mystificateur du symbole. Comment se fait-il que cette sacralisation ait pu avoir lieu ? Il me semble que cela tient à ce qu'on se trouve effectivement dans une expérience du sacré. C'est que dans la justice, dans toutes les questions de justice, au fond, on s'affronte, même si c'est sous l'apparence de procédures extrêmement réglée et objective, on se trouve devant les problèmes humains fondamentaux et devant le problème humain fondamental qui est le problème du mal. Le problème de la réparation de l'irréparable. Parce qu'au fond, la justice entreprend d'offrir des réparations pour des situations qui, fondamentalement, relèvent de l'irréparable, d'une souffrance, d'un deuil, d'une violence. Et donc, cette expérience du mal, elle met bien toujours la conscience en présence de ses limites, d'un mystère. On dit problème du mal. Le mot qui convient, c'est mystère du mal. Et même si nous avons des procédures bien réglées de réparation, le mystère reste entier. Qu'est-ce que c'est que le sacré ? Rappelons-le en deux mots. Tout le monde sait que sacré signifie intouchable. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le caractère de sacralité concerne aussi bien ce qui est vil que ce qui est noble. Ce qui est souillé que ce qui est pur. Et c'est d'ailleurs pourquoi les mots qui servent pour les injures sont les mêmes que ceux qui servent pour la prière. Parce que dans les deux cas, au fond, on fait la même expérience de la limite, du seuil, qui fait que notre monde d'ici rencontre l'effroi, on parle de l'effroi sacré, hein, rencontre l'effroi dans la possibilité d'un autre monde, d'un au-delà. Et donc il y a sacré quand il y a limite et quand est tracée la délimitation, pour ainsi dire, entre un ici-bas et un au-delà, qui fonde cet ici-bas donc dans ses propres limites. C'est pourquoi j'ai, dans les documents qui vous sont remis, j'ai mis une des définitions les plus classiques du sacré, qui est celle proposée par Mircea Eliade dans son ouvrage extrêmement connu, « Le sacré et le profane », dans lequel Mircea Eliade dit « Pour l'homme religieux, l'espace n'est pas homogène. Il présente des ruptures, des cassures. » il y a des portions d'espace qualitativement différentes des autres. « N'approche pas d'ici, dit le Seigneur à Moïse, ôte tes chaussures, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Il y a donc un espace sacré et par conséquent fort, significatif. Et il y a d'autres espaces non consacrés et partant sans structure ni consistance, pour tout dire amorphe. Donc la distinction du sacré et du profane est marquée par le seuil. Seuil qui fait que je vais me découvrir en franchissant ce seuil, ou ôter mes chaussures, ou me signer, ou revêtir un vêtement liturgique, que sais-je. Seuil qui n'est pas seulement spatial, puisque ça veut dire que quand je vais d'un lieu à un autre, c'est mon être qui change, c'est pas simplement le déplacement spatial de 50 cm, mais c'est mon statut ontologique qui se trouve transformé et ce qui est manifesté par le vêtement, le geste, le rite qui marque ce seuil. On peut remarquer aussi que cette image du seuil, que l'on comprend bien concernant l'espace, vaut pour le temps. Il y a des temps sacrés qui reviennent, puis il y a du temps profane. Le temps profane, c'est celui qui coule d'un jour sur l'autre. C'est celui de l'oubli et de l'activité. Et puis, un anniversaire, une commémoration, un cycle liturgique arrime le temps qui passe à ce qui ne passe pas. Donc, de la même manière que les seuils délimitent un monde ici-bas et au-delà, de la même manière, donc, les temps commémoratifs délimitent un temps profane, un temps sacré, et signifient par là qu'on est dans un autre registre. Et alors, l'expérience du mal, donc, nous met devant le seuil radical de l'existence, qui est celui, donc, de la mort, de la souffrance, de la violence sous toutes ses formes. Or, cette rencontre du mal, elle se déploie dans deux autres espaces, et on peut donc compter trois espaces dans lesquels l'humanité essaye d'assumer cette expérience du mal, de lui donner sens, de lui faire face autant qu'elle le peut. Ces trois espaces, c'est le temple, le théâtre, le tribunal. Trois expériences du mal. Le temple, le théâtre, le tribunal. Ces trois expériences du mal sont distinctes. Alors, elles ont évidemment des confins, elles se contaminent quelque peu les unes les autres, on le verra peut-être, mais elles sont distinctes. Dans le temple s'élève la supplication. Cette supplication, elle fait que le suppliant, et la figure antique du suppliant, qui était sacré lui-même, le suppliant devenait intouchable. Il était dans la situation de celui qui a accès à un asile et qui ne peut plus être poursuivi parce qu'il est sauvegardé par son statut de suppliant. Ce que l'on voit dans les tragédies, entre autres dans la tragédie d'Eschyle sur la transformation des Érinies en Euménides. Voilà, les Euménides. Excusez-moi. Et donc, dans la prière, ce qui est sollicité, c'est le salut. La prière est adressée à la divinité qui peut rendre compte, qui est censée pouvoir rendre compte de la détresse, de l'injustice subie et qui est aussi qui est celle qui peut apporter le salut, c'est-à-dire laver de la souillure, laver de l'humiliation, laver de la faute même. celui qui élève une prière devant la divinité dans cette enceinte du temple qui donc est une enceinte qui permet l'asile. Il arrête les poursuites. Parce que précisément, dans cette enceinte, celui qui s'y trouve est confié au Dieu. Et donc il échappe à la poigne des hommes. Il échappe à la saisie des hommes. Et il peut trouver dans l'enceinte du temple, par l'intermédiaire donc de la liturgie, par l'intermédiaire de la prière, la parole qui va l'ouvrir au salut. Le théâtre, lui, il élève non pas la souffrance sous la forme d'une supplication, mais la souffrance sous la forme d'un poème, d'un récit, d'un cœur qui va métamorphoser cette souffrance en la mimant. C'est la meilleure solution que les hommes ont trouvée pour résoudre le problème du mal, c'est de l'apprivoiser en le mimant. En le dansant, en le chantant, en le racontant, en le jouant. Afin d'exprimer à travers ce mime leur angoisse, leur détresse, et se donner les moyens de comprendre cette situation catastrophique à laquelle nous avons affaire lorsque nous rencontrons la violence et l'irréparable. Et donc le théâtre permet à l'humanité de porter sa plainte sous la forme d'un chant ou d'un poème. Qui inspire, comme Aristote nous l'a appris, deux sentiments fondamentaux qui sont la pitié et la crainte. Vous savez que pour Aristote, les deux ressorts fondamentaux de la tragédie sont la pitié, la crainte. Voilà pourquoi pour Aristote, le héros de la tragédie ne doit être ni tout à fait bon ni tout à fait mauvais, parce que s'il était tout à fait bon, il n'inspirerait pas la pitié. S'il était tout à fait mauvais, on n'aurait pas non plus pitié pour lui ni crainte pour ce qui va lui arriver. Et donc le public est appelé à la compassion. Dans le temple, il n'y a pas un public, il y a une assemblée. Dans le théâtre, il y a un public. Ce public va participer au sort du héros, à la plainte du héros, par ses pleurs, ses rires ou ses applaudissements, que sais-je. Mais le public est là et sympathise d'une manière ou d'une autre avec la destinée des héros qui sont sur la scène. Et c'est pour ça que le théâtre remplit une fonction catharsique. Donc le temple remplit une fonction de salut, le théâtre remplit une fonction de catharsis, de purgation. Catharsis, ça veut dire purge. Et donc on purge les passions en les exprimant. Et quand on les exprime, on compatit à travers donc les sentiments de la pitié et de la crainte. Et c'est pourquoi nous sommes si heureux d'avoir pleuré devant un film. C'était beau, j'ai pleuré. Parce qu'au fond, nous devenons humains par cette compassion même. Le temple, le théâtre, le tribunal. Ah, dans le tribunal, c'est tout autre chose. Dans le tribunal, oui, on a une enceinte sacrée, en ce sens que les troubles du monde, les agitations sont invités à rester à la porte. Et on est invité à être respectueux, attentif, mais dans un mode de parole qui est très différent. Dans le temple, la souffrance devient prière. Dans le théâtre, elle devient chant. Curieusement, dans le tribunal, elle devient argumentation, débat. La caractéristique du tribunal, c'est d'élever la parole, non pas à la prière, non pas au chant, mais au débat. Au débat où vont se confronter des arguments, des raisons, des témoignages, où l'on va s'efforcer d'entendre l'une et l'autre partie et d'entretenir le contradictoire. À ce moment-là, ce que cherche le tribunal, effectivement, ça n'est pas le salut, ça n'est pas la purgation, mais c'est la réparation. Oui, salut, purgation, réparation. Cette réparation, elle répond au fond plus à la colère des hommes qu'à leur souffrance. Il me semble qu'on peut distinguer le domaine du théâtre et le domaine du temple de celui du tribunal, dans la mesure où le tribunal, c'est plus le lieu de l'organisation de la colère. Alors que le temple et le théâtre, c'est plus le lieu de la souffrance. C'est très bien dit au début d'un merveilleux film que je vous recommande, qu'on a d'ailleurs commenté ici il y a quelques années, qui s'appelle « De beaux lendemains » d'Atom et Goyan. Si vous n'avez pas vu « De beaux lendemains » d'Atom et Goyan, dépêchez-vous de le louer ou de l'acheter. Et donc c'est un avocat qui se présente dans des familles pour défendre ces familles car elles ont perdu leurs enfants dans un accident de car. Et l'avocat essaye de convaincre les familles qu'il faut qu'elles fassent des poursuites. C'est-à-dire que ça pose la question de... Y a-t-il des réparations de l'irréparable ? Et l'avocat ne cesse de leur dire « Je ne suis pas là pour réparer votre souffrance, je suis là pour réparer votre colère. » De la souffrance, il n'y aura pas d'équivalent. En revanche, la colère, elle peut exiger un donnant-donnant, une organisation qui puisse satisfaire cette exigence. Et voilà les trois domaines que l'on peut comparer comme expérience du sacré, c'est-à-dire expérience de la souffrance comme rencontre du sacré, celui donc du temple avec une assemblée, celui du théâtre avec un public, et alors celui du tribunal avec quoi ? Un public ? Un jury ? Ou l'opinion publique qui est encore à la porte, car l'opinion publique n'est pas à la porte du temple, l'opinion publique n'est pas à la porte du théâtre. Mais l'opinion publique est de plus en plus souvent présente à la porte du tribunal. D'où probablement, et je conclurai par ces mots, les malentendus où nous sommes actuellement dans la fonction même du procès. Auquel, vous le savez, l'opinion publique veut faire jouer à la fois le rôle de l'Église, le rôle du théâtre, le rôle du temple, le rôle, etc. On y attend du repentir, on y attend de la pitié, on y attend de l'émotion. Alors que précisément, ça devrait être l'enceinte où l'émotion ne devrait pas entrer. Je crois que, Antoine Garapon d'ailleurs l'explique bien, que cela tient au fait que nous sommes dans une culture qui, dont l'horizon métaphysique est bouché. Beaucoup de nos contemporains sont hermétiques à la dimension métaphysique et religieuse. Je ne sais pas si le théâtre est en crise, mais en tout cas, une société qui n'a plus d'horizon métaphysique ne sait pas quoi faire du problème du mal. Il faut dire que les hommes n'ont jamais bien su quoi faire du problème du mal. Mais enfin, on a perdu l'éponge. Et du coup, le tribunal se trouve chargé de toutes les missions. Aussi bien de la fonction catharsique que de la fonction liturgique que de la fonction juridique. Et c'est sans doute ce qui entretient l'ambiguïté du rapport de l'opinion publique, en tout cas, à cette fonction du tribunal. Je pense que c'est un des points sur lesquels nous aurons l'occasion de réfléchir. Cette société, donc, envahie par un mal pour lequel elle n'a pas ou plus de prières à prononcer, pas ou plus de chants à élever, et qui s'imagine qu'elle pourra résoudre le problème du mal par quelques réparations, mais se trouve devant des questions bien plus fondamentales que celles que le droit en lui-même, et de manière simple, peut arbitrer. Le philosophe a parlé. Je crois que donc c'est M. Gaucher qui va prendre la parole ensuite pour nous apporter son témoignage de magistrat sur cette question. Je rappelle que si nous avons un micro, c'est parce que toutes nos rencontres sont enregistrées, que vous pouvez les consulter et les podcaster sur notre site gratuitement. Si vous en voulez un enregistrement, là, on vous demandera de payer.
Merci, Monsieur Dumont. Mesdames, Messieurs, je n'ai pas la profondeur de pensée du philosophe. J'ai cependant maintenant 40 années d'expérience dans laquelle j'ai essayé de dire le juste, ou plutôt de ne pas dire l'injuste. Sur un sujet comme le lieu de justice, le palais de justice, il faut de remonter à l'origine de la fonction du juge. La fonction du juge, historiquement, n'est qu'un démembrement de la puissance du roi. Le roi, qui était l'administrateur, demandait à la fois décider de la loi, et décider également de l'application de la loi. Ce qui était commode, parce qu'il disait « Je sais comment la loi doit être appliquée, c'est moi qui l'ai faite. Et je sais qui la transgresse, donc je saurai le condamner. » Les premières tentatives pour sortir la fonction du juge de la fonction régalienne la plus complète, viennent effectivement, ont commencé avec un code qui est une merveille pour tous les juristes, qui est le code d'Hammurabi, qui a été écrit en 1300 avant Jésus-Christ dans une terre qui recouvre à peu près l'Irak maintenant, et où le roi d'Hammurabi avait proclamé « je vais être le roi du droit, et donc je vais dissocier la fonction du juge et la fonction de ma propre fonction. » C'est pour cela que historiquement, on ne rend pas la justice dans un hôtel de justice, ni dans une maison de justice, mais on la rend dans un palais, parce qu'on la rend comme dans le palais du roi. Le lieu de justice lui-même, pendant très longtemps, n'était pas un lieu très fixe. Rappelez-vous dans la vie de Saint-Louis les propos du sire de Joinville qui racontait comment Louis IX rendait la justice sous un chêne. Quand il avait un peu de loisir, il se mettait sous le chêne et il disait que ceux qui ont un procès à faire viennent devant moi. Et puis il s'est aperçu qu'il n'arrivait pas à résoudre tous les procès qui pouvaient lui être apportés. Et Saint-Louis a mis en place ce qu'on appelait les baillis. Les baillis qui étaient des officiers de justice, qui étaient à la fois des administrateurs, les représentants du roi, mais également des juges. Et on était effectivement dans la confusion. Les quatre premiers bailliages que Louis IX a mis en place, c'était Saint-Pierre-le-Moustier, Sens, Vermandois et Mâcon, une ville dont j'ai été le président. Et le but de ces baillis était à la fois d'asseoir le pouvoir du roi sur le territoire, et par le biais du fait que les baillis rendaient la justice, petit à petit de reprendre le pouvoir au seigneur. Parce que très habilement, on disait au seigneur, mais tu gères comme tu veux. Mais si tu fais une faute, comme je suis ton suzerain, je jugerai que si tu as fait une faute. Et petit à petit, effectivement, les juridictions des seigneuries, des châtellenies, ont été vidées de ce que l'on appelait la basse justice pour être confiées au roi. Comment est-ce que le bailli rendait la justice ? Ben, pas dans un palais. Il la rendait sous forme d'assises. C'est-à-dire qu'en fait, le représentant du pouvoir royal était un voyageur de commerce qui allait sur la place du village, qui disait « Est-ce qu'on a des personnes à juger ? Un tel qui a commis un meurtre, qu'on gardait dans une prison qui avait à l'époque un caractère totalement préventif, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de prison sanction. La prison n'était qu'un élément pour garder les personnes sous main de justice. Et puis, suivant l'imagination du juge, on pouvait l'écarteler, on pouvait lui briser les membres, on pouvait le placer au pilori, puisque le juge était libre de choisir la forme de la peine qu'il voulait. C'est-à-dire que plus on avait un juge inventif, plus il trouvait des supplices les plus affreux. Les assises ont été un moyen pour le juge qui avait parti lié avec le roi, le moyen de créer ce qui a été la France et puis d'avoir une assiette sur le territoire qui fait que petit à petit tous ceux qui étaient comtes, marquis, etc. N'avaient plus dans les juridictions grand-chose à faire. Alors le juge était le représentant du roi et on en voit la trace dans les parlements parce que les premiers lieux de justice qui ont été créés sont les parlements. Et ce sont en général de très beaux monuments. Le parlement de Bretagne, pas très loin d'ici, le parlement des Dombes, le parlement de Grenoble, le parlement de Dole également. Tous ces parlements... Tous ces juges étaient des représentants du roi. D'ailleurs, ils ont l'habit rouge des rois. La robe rouge du juge, c'est le manteau du roi. Ils rendaient effectivement la justice dans des parlements, une justice qui se devait d'être lointaine. Ils rendaient une justice qui avait pour vocation d'être inatteignable. Parce qu'un des objectifs du palais de justice, c'est de montrer la différence sensible qu'il y a entre l'office du juge, qui est de rendre la justice, et l'activité normale des hommes. À tel point que le juge, lorsqu'il rend la justice, il met une robe. L'avocat met une robe pour bien montrer qu'il n'est pas la manière. Et puis en plus, il a son langage, qui autrefois était en latin, et qui maintenant est en français, mais qui est dans un langage qui n'est pas forcément compréhensible. Les palais de justice, c'est une notion qui ne concerne que les lieux où sont hébergés les cours d'appel et où sont hébergés les tribunaux de grande instance. Les tribunaux d'instance qui sont les anciennes émanations des justices du palais n'ont pas le droit à l'appellation palais de justice. On les appelait le tribunal tel qu'il était. Dans ce lieu de palais de justice... Je vais vous prendre l'exemple des 24 colonnes, parce que je le connais bien pour avoir été secrétaire général de la Cour d'appel de Lyon pendant 8 années, il y a une quinzaine d'années. Ils étaient organisés sur une gestion de l'espace qui divisait d'abord déjà deux choses. L'élément temporel, qui était la partie basse, si vous allez dans le hall du palais de justice de Lyon, vous regarderez toute la partie qui est basse, toute la partie basse est en ligne brisée. En rectangle, en carré, c'est l'espace temporel, c'est l'espace des hommes. Si vous levez la tête, vous verrez des coupoles rondes, vous verrez des arceaux, et c'est effectivement la place de la justice divine. Parce que le lieu où est rendu le palais est un lieu qui est un lieu un peu mixte, qui est à la fois sacré et religieux, mais qui est aussi une justice des hommes. D'ailleurs, la main de justice que je crois vous avez mis dans votre opuscule, puis ça fait partie des symboles rituels de la justice, comporte effectivement une main dans laquelle deux doigts sont levés. Un doigt pour la justice des hommes, un doigt pour la justice de Dieu. C'est la symbolique, effectivement, des deux doigts de la main. Alors la justice a la vocation, effectivement, à en imposer, entre guillemets, si vous me passez cette expression, à la personne que l'on juge. Ce qui suppose une distance à la fois par rapport à la personne qui t'a jugé, qui ne sera jamais proche de la personne, et également en hauteur. il est assez symptomatique, j'ai présidé une cour d'assises, que vous ne rendrez pas les mêmes débats dans une salle qui aura 6 mètres de haut et dans une salle qui en aura 20 mètres de haut. Plus la peine est forte, plus il faut de la hauteur de plafond, en quelque sorte, pour que le message passe. Le rituel judiciaire va faire également qu'à l'intérieur de l'enceinte de justice, trois personnes doivent pouvoir se rencontrer. Le juge, l'accusé avec son avocat, la victime avec son avocat, à un moment donné, pour y organiser un débat. Parce que la justice se conçoit dans notre conception dans l'organisation d'un procès. Le procès, c'est un processus. Quelles sont les fonctions du procès? Ça a été un des sujets du concours d'entrée de la magistrature il y a quelques années. À quoi sert un procès? Et comme très bien dit M. Dumont, le procès, normalement, il sert à déterminer si une personne est coupable ou si elle est innocente, et si elle était coupable, de déterminer la peine. Il n'a pas de fonction catharsis dans le code. Regardez ce qui s'est passé dans l'affaire des prothèses PIP, où les victimes disent « j'ai besoin du procès, j'ai besoin d'une expiation ». Lorsque le juge a mis la peine, etc., il a fini son office. Et très souvent, le juge est dépassé par une demande qui excède largement ce qu'il peut accorder. D'ailleurs, lorsqu'on a entendu ces pauvres femmes qui ont dit 4 ans, c'était pas suffisant, c'est jamais suffisant. On mettrait 20 ans, ça ne serait pas suffisant. On n'arrivera pas à calmer cette colère que vous évoquiez. Et donc, il doit y avoir. Et dans cette salle d'audience, il va y avoir trois lieux encore. Le public, au fond. Les personnes qui sont concernées par le procès, qui vont se mettre dans le prétoire, et l'enceinte la plus sacrée, qui est celle où le juge est assis, et la salle de délibéré, qui est effectivement derrière. Ça, c'est le fonctionnement normal de la justice. Est-ce qu'il y a d'autres types de fonctionnement? Oui. Parce que, la plupart de nos palais de justice ont été conçus, ou au moins ont été restaurés du temps de Napoléon, puisque tous les palais de justice avec 3 colonnes, 6 colonnes, 12 colonnes ou 24 colonnes, ça dépend des lieux, ont été bâtis sur un modèle romain et de telle manière à montrer effectivement la puissance de la justice. Et ils font d'ailleurs la joie des élèves de l'école d'architecture qui, à chaque fois, viennent toutes les années au palais dessiner ces espèces d'arabesques qui sont très compliquées, paraît-il, à noter et qu'ils reproduisent. Dans les années 60, il y a eu un vent à propos des palais de justice. On ne va plus rendre la justice dans les palais, on va la rendre dans des cités judiciaires. Et on a essayé de calquer le palais de justice avec un immeuble administratif. La première cité judiciaire, ça a été le tribunal de grande instance de Lille, qui a une tour de 18 étages, que je vous conseille si vous aimez l'exercice de la montée à pied quand l'ascenseur est en panne, 18 étages, à partir du 6e, j'en connais pas, qui commence pas à souffler un peu, et qui ont l'apparence d'un immeuble administratif. Et on a vu, à partir des années 60, plus récemment, des architectes, pour rapprocher la justice du citoyen, descendre les plafonds, réduire les salles d'audience. Et ce que l'on a constaté, nous, c'est que ça a un impact énorme sur la manière dont les choses se disent. Par exemple, on le voit dans les aménagements des salles d'audience pour juger les mineurs. On a dit qu'il faut que les mineurs, qui sont des êtres sensibles, qui peuvent être impressionnés, soient dans des salles, dans des lieux qui ne soient pas trop impressionnants. On s'est aperçu qu'en faisant des salles très petites, l'agressivité du mineur, parfois à l'égard du juge, était encore plus importante. Parce qu'il n'y avait pas de barrière pour s'exprimer, on assoyait le mineur à la même hauteur que le juge. Et qu'est-ce que tu as à dire, toi? Et je me souviens d'un procès auquel j'avais participé, où il y avait un jeune en face qui disait au juge, qui était assis en face de lui, « Nique ta mère ». Et le juge disait « Mais qu'est-ce qu'il a dit, là ?» Et alors je lui dis « Mais il se propose de faire subir les derniers outrages à votre maman ». Et puis le collègue, il me dit « Mais ma maman est décédée ». Comprenez, on était complètement dans un domaine totalement irréel et il ne comprenait pas. Alors quand je lui ai expliqué, mais Alors l'autre en face, il dit, mais il comprend rien, celui-là, alors de rien à rien. Un problème de langage. On est revenu un peu sur cet élément-là, et on a compris que le palais de justice nécessite tout de même une distance importante. Mais le problème que l'on a, c'est que reconstruire un palais de justice majestueux, ça coûte énormément. Les derniers palais de justice qu'on a construits dans la région parisienne, Bobigny, Créteil, ne sont pas des réussites architecturales extraordinaires. On a payé cher les architectes, mais on n'a pas eu des choses qui sont phénoménales. Mais on a repris conscience qu'il fallait cette distance. Alors ce qu'on s'est demandé, c'est est-ce qu'entre le palais de justice et la rue, il faut quelque chose ? Alors on a déjà mis en place ce qu'on appelle les maisons de justice et du droit, qui sont des lieux déconcentrés dans lesquels vont se traiter des petites affaires de justice où on va apporter effectivement le droit, et dans lesquels le juge, là, ou tout au moins celui qui vient dans ces organes-là, n'a pas besoin de cette distance parce qu'il n'impose pas, il offre effectivement un service. Et puis la dernier lieu de justice, et c'est le clin d'œil que vous m'avez fait tout à l'heure, est-ce que le dernier lieu de la justice, c'est pas quand le juge va dans la rue ? J'ai été très étonné il y a quelques temps, lorsque il se trouve qu'à Lyon, je gère le pôle des référés généraux, et dans les référés généraux, on a quelques affaires qui sont un petit peu emblématiques de temps en temps. Et j'avais eu à juger effectivement le problème de l'expulsion des Albanais qui sont sous le pont Kitchener. Alors je précise les Albanais parce que si vous leur dites que ce sont des Roms, ils vous diront que ça n'a strictement rien à voir. Et effectivement, ils n'ont strictement rien à voir. 300 personnes qui étaient sous un pont. La communauté urbaine de Lyon qui me demande d'urgence une expulsion. Un préfet qui était dans les atermoiements. Le sénateur-maire de Lyon qui voulait qu'on débarrasse cette place qui est de ce problème, parce qu'il y avait d'abord danger, puisqu'on était très proche de l'autoroute. Et la communauté urbaine demande une expulsion. J'avais 150 personnes qui étaient poursuivies, qui étaient citées devant le tribunal, qui sont rentrées dans la salle d'audience et qui sont venues. Il s'est trouvé que... Je me demandais comment, à l'égard de ces personnes qui étaient un peu oubliées, parce que ces personnes avaient été amenées là, sur le pont Kitchener, par le préfet du Rhône, qui les avait expulsées de la place Carnot et qui leur a dit « Vous vous mettez là ». Parce que je crois que les gens se mettent là parce qu'ils ont trouvé... Non, c'est l'autorité administrative qui les avait mis là. C'est-à-dire qu'on les avait sortis de la place Carnot et on leur a dit « Vous vous mettez sous le pont Kitchener ». Le préfet. Alors... qui avait l'obligation de les loger, puisque ce sont des demandeurs d'asile. Normalement, les engagements internationaux de la France obligent à les loger. Et il s'est trouvé que, alors que le procès devait être renvoyé, les avocats en défense classique demandent l'incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif. Défense classique, c'est-à-dire « je veux pas de vous, juge judiciaire, je préfère aller devant le juge administratif ». La communauté urbaine n'est pas prête pour répondre aux arguments, parce qu'il y avait des conclusions de 30 pages qui ont été déposées par les 6 avocats de la défense, et me demande un renvoi. Alors je dis à l'avocat de la communauté urbaine, vous étiez très pressé que l'affaire soit jugée, vous me demandez un renvoi, je veux bien vous l'accorder, mais on va essayer d'utiliser le temps perdu. Qu'est-ce que vous dites ? Je lui dis, écoutez, demain, quand on prend l'audience, je vais annoncer que je me rends sur place. Vous allez vous rendre sur place, mais pour voir quoi ? Mais pour voir le procès que vous faites, pour voir effectivement les personnes qui sont là. Et là, j'ai demandé aux avocats de garder la confidence pour eux, n'en parler à aucun de leurs clients, parce que je ne voulais pas que ça s'ébruite en tant que tel, pour éviter toute dérive médiatique. Et puis je prends l'audience le lendemain, j'ordonne le transport sur les lieux, dans le quart d'heure qui suivait, et je nomme 2 experts que j'avais pressentis, Madame Daligan et Mme Tissot-Guerra, qui étaient des professeurs en matière d'épidémiologie, en leur disant « Venez me dire si les personnes qui sont sous le pont Kitchener sont dans des conditions normales d'hygiène et de salubrité par rapport au respect de la dignité de la personne humaine. » On part. On n'était pas très nombreux dans la salle d'audience, et puis je ne sais pas trop comment. Quand on est arrivé sous le pont Kitchener, il y avait un monde fou, des caméras de tous les côtés. Et là, dans ce cas-là... Pour que, j'allais dire, le transport de justice et le lieu de justice passe, il faut faire le plus naturellement du monde. J'ai posé des questions à des personnes, j'ai vu des gamins qui me serraient la main. On m'avait dit qu'un certain avait la gale. Ben, j'ai quand même serré des mains. Je n'ai pas eu la gale. Et puis surtout, j'ai vu des gens qui étaient dans le plus complet dénuement, plus de 80-90 enfants. J'ai interrogé le commissaire de police. Je lui ai dit, est-ce que vous avez de la délinquance ? Depuis qu'ils sont là, on a volé, depuis 5 mois, on a volé 6 vélos. Ah bon ? À 300, il y a eu 6 vélos volés ? Ah oui. Mais c'est rien, il m'a dit. Ils ne sont pas délinquants, ce sont des gens qui simplement attendent qu'on réponde à leurs demandes. Cet élément-là de transport de justice, qui n'était rien du tout sur le plan judiciaire, c'est l'article 179 du Code de procédure, a été un élément déclenchant qui a obligé l'autorité administrative à prendre des décisions qu'elle ne voulait pas prendre. D'abord, la première des choses, le préfet de région Rhône-Alpes, quand il a su que le juge y était allé, d'abord, ça s'est agité beaucoup, beaucoup en préfecture. Puis il a immédiatement communiqué en disant « Monsieur Valls, c'était ministre de l'Intérieur, était présent hier, mais il est allé sur les lieux ». Alors moi, j'avais posé la question. Personne ne l'a vu sur les lieux. Il a dû passer très vite. Sa voiture n'a pas dû beaucoup ralentir parce que personne ne l'a vu effectivement sur les lieux. Et surtout, il a obtenu un crédit supplémentaire pour l'hébergement de ces 300 personnes qui sont maintenant hébergées dans la région. Donc le fait que le juge sorte de son palais, à condition qu'effectivement ça ne devienne pas une habitude tous les matins, ça peut être un facteur déclenchant parce que les gens n'ont pas l'habitude de le voir. Mais c'est aussi quelque chose qui peut rapprocher le juge du citoyen. Ce qui m'avait fait plaisir dans ce qu'avaient dit les avocats de la défense, qui, entre parenthèses, se demandaient pourquoi ils avaient invoqué mon incompétence au profit de la juridiction administrative, parce que j'aurais dit, vous croyez que le juge administratif serait parti sur place ? Elle me dit, oui, mais maintenant on est bien embêté, on a déposé des conclusions d'incompétence, on va tenter de les soutenir quand même, enfin mollement, parce que comme ils n'attendaient pas cette décision du juge, ils étaient embêtés. Les avocats ont dit, ils m'ont dit, vous allez peut-être les expulser, mais vous leur avez donné le sentiment qu'ils étaient des êtres humains dont on s'occupait. Et j'ai rendu une décision qui a fait application des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme et qui est partie sur ce point. Et là, on peut démontrer qu'on peut rendre la justice ailleurs que dans un palais, dans un lieu qui peut parfois être un élément surprenant. Cette justice qu'on rend sur place, le moment de justice sur place, c'est un moment de conciliation. Ça peut être difficilement un moment où on exerce la contrainte. Et d'ailleurs, lorsque la contrainte a été exercée, c'est quand on est revenu à l'intérieur du palais où, effectivement, là, les décisions vont effectivement se prendre. Donc voilà l'expérience que j'ai, effectivement, de ces lieux de justice. Mais retenez surtout que le mot « palais » ne veut pas forcément dire que la justice est riche, puisque généralement, ces palais ne sont pas toujours dans de très bonnes conditions. Et l'idée, surtout, c'est de, en quelque sorte, la placer dans un sorte de cocon, tout au moins, qui va la sortir un petit peu du circuit administratif qui est à peu près normal. Et c'est un petit peu le sens de ce que l'on pourrait faire. Voilà ce que je pouvais vous dire. C'est beaucoup moins, j'allais dire, argumenté que ce qu'a pu présenter le philosophe sur ce plan-là. Mais je crois que c'est dans l'expérience que l'on a des palais de justice, de la manière dont on peut rendre les choses, qu'on peut essayer de trouver le juste équilibre entre la contrainte qui est nécessaire à la décision de justice et en même temps à la compréhension que l'on doit avoir à l'égard des situations qui nous sont confiées. Ça fait maintenant plus de 40 ans que je suis magistrat. Quand certains de mes amis me disent « Mais quand tu as fait magistrat parce que tu aimes le droit », je leur réponds « J'ai fait magistrat parce que j'aime les gens ». Le droit, c'est un facteur de régulation de notre société, mais qui peut parfois être très injuste dans les situations individuelles parce qu'il ne peut pas se positionner. Et le but de notre travail, c'est dans un lieu, à l'occasion d'un moment qui est le moment du procès, arriver à faire que dans les rapports sociaux des personnes, on résolve une difficulté autrement que par la force, ou que par la puissance économique. C'est pour ça qu'il faudra que vous rentriez dans nos palais de justice.
Merci pour ce témoignage complet et argumenté. Et historiquement aussi intéressant. Donc on a suivi un très beau parcours de l'histoire à l'actualité. Et je donne maintenant la parole donc à l'avocat Bertrand de Belval.
Voilà, bonsoir. Alors je ne vais pas reprendre ce qui a été dit. Je vais simplement essayer de faire un petit récapitulatif. Je n'ai pas les 40 ans d'expérience. Je ne vais pas présenter non plus sur le plan philosophique. Simplement, je vais essayer de rappeler un peu la fonction du palais de justice, comment on la conçoit et comment elle évolue un peu aujourd'hui. Parce que finalement, quand on regarde bien, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi on va dans le palais de justice et pourquoi finalement on n'irait pas ailleurs. C'est un peu finalement comme si on se posait la question, est-ce qu'on doit avoir une maison ? Ou est-ce qu'on n'a pas de maison ? Est-ce qu'on pourrait être des nomades ? Ou est-ce que nous sommes des personnes sédentaires ? Et si on veut élargir même le cercle, on peut se poser la question, pourquoi il y a des frontières ? Pourquoi il n'y a pas de frontières ? Et quand on y réfléchit bien, la question du palais de justice, comme M. Gaucher l'a bien rappelé, c'est une enceinte qui a ses règles. On rentre dans une atmosphère qui est différente. On a des magistrats qui ont des robes, on a des juges qui ont des robes, on a des organisations qui sont prévues, on a des parcours, on a des salles spécifiques. Et quand on regarde d'un palais à un autre, on s'aperçoit que l'architecture, elle est relativement similaire dans l'organisation, pas forcément sur le plan purement esthétique des choses, mais dans la présentation qui est faite. Et finalement, quand on réfléchit au pourquoi de ces palais de justice, on s'aperçoit que toute cette organisation qui est mise en place par les questions architecturales renvoie à un sens, renvoie à une organisation, renvoie à la question de comment juger, comment essayer de maîtriser tous ces conflits sociaux entre les différentes personnes. Alors, les palais de justice, c'est ceux qui, dans notre approche, monopolisent un peu les questions de justice. Mais ce phénomène, on s'aperçoit de plus en plus qu'il est plus forcément celui qui a le vent en poupe, parce qu'il y a de nombreux phénomènes de justice qui se passent aujourd'hui en dehors des lieux de justice. Alors, c'est ce va-et-vient que M. Gaucher rappelait. On a besoin des palais de justice, mais il ne faut pas forcément être que dans les palais de justice. Il faut être capable de rendre au palais de justice sa fonction et puis peut-être d'aller chercher des choses nécessaires ailleurs pour justement mieux rendre la justice. Alors, comme je vous l'ai dit, mon propos, ça va être un peu de récapituler les choses pour voir comment se rend cette justice donc à l'intérieur du palais et comment on va en dehors du palais et finalement, quel est le problème qui est posé par cette justice qui est hors les murs aujourd'hui que l'on entend beaucoup, la justice médiatique. Et poussée à son paroxysme, elle va nous montrer finalement que le palais qui est un peu décrié, et comme M. Gaucher l'a encore rappelé, eh bien, on y revient parce que c'est peut-être des murs. Les murs, on a l'impression que ça enferme. Mais dans ces murs, il n'y a pas simplement cette question de concentration. Il y a véritablement une organisation qui a un sens et qui participe au prononcé de la justice. Alors, le palais de justice, qu'est-ce qui fait sa spécificité ? Bien, la première chose, il y a une symbolique. Et tout humain que nous sommes, finalement, on n'arrive jamais à se détacher complètement d'une symbolique. dans la justice, et peut-être même encore plus aujourd'hui, il y a l'aspect émotionnel qui revient beaucoup. Et la question du symbole, c'est quelque chose qui a encore une valeur extrêmement forte. Et quand on regarde les différents palais, vous ne plaidez pas, vous n'avez pas forcément la même attitude dans un palais selon que vous êtes assis derrière une table, selon que vous êtes debout à 2 mètres du magistrat ou que vous êtes debout derrière votre pupitre à 6 mètres du magistrat avec un plafond qui fait 10 mètres. Et au sommet du plafond, où vous avez une peinture du jugement dernier ou je ne sais quoi. Et donc, le lieu, il est symbolique par lui-même, mais au-delà de ces simples symboles, eh bien, il y a une attitude de la personne qui est totalement différente. Ce qui a été dit tout à l'heure sur la table avec les personnes qui sont assises côte à côte et qui essayent de avoir un débat judiciaire, eh bien, c'est pas du tout la même chose selon que nous sommes à distance, selon que nous sommes placés dans des considérations différentes. Je vais prendre juste un exemple pour illustrer qui aujourd'hui pose question sur le plan judiciaire, c'est la place du parquet. Dans l'organisation française, le parquet, il est généralement situé au même niveau que les magistrats du siège. Sur le côté, les magistrats du siège font face à vous quand vous êtes prévenu, par exemple. Et puis, vous avez le parquet qui est à un côté. Et puis, de l'autre côté, vous avez le greffier. Et vous avez l'avocat de la partie civile, s'il y en a une, l'avocat de la défense, qui sont à un niveau qui est inférieur au parquet. Eh bien, aujourd'hui, il y a une question qui se pose. Est-ce que le parquet doit toujours être à une hauteur un tout petit peu plus élevée que l'avocat de la défense, par exemple? Et si vous regardez les séries télévisées, vous pouvez voir que, par exemple, pour les États-Unis, eh bien, celui qui porte l'action publique et l'avocat de la défense sont assis côte à côte. On a vu les procès DSK en direct. Eh bien, il y avait le procureur, il y avait l'avocat de la défense. Ils étaient strictement sur un pied d'égalité. Eh bien, on voit que dans cette architecture, il y a, au-delà de la place des personnes, un vrai enjeu sur la manière de rendre la justice. Donc ça, c'est la première chose. Le palais de justice, c'est d'abord un lieu de symbole, mais un lieu de symbole qui est particulièrement révélateur sur la manière dont la justice est rendue. Et puis, dans le palais de justice, au-delà du symbole, il y a un rituel. Et ce rituel, il va même encore plus loin que le symbole, parce qu'il introduit toute la dimension processuelle, tout ce qui va être la dynamique du procès, et par l'organisation du palais, il y a une sorte d'ordonnancement des choses qui se fait. Il y a un rituel plus qu'une routine qui va introduire des manières, des comportements et qui vont également influer sur la manière dont la justice va être rendue. Je donne un exemple très simple. Quand le tribunal arrive, le greffier, en fonction des audiences, sonne la petite cloche ou proclame haut et fort le tribunal, et vous avez les personnes qui sont dans l'assistance, qui se lèvent, pour accueillir le tribunal. Eh bien, rien que ce tout petit élément, ça montre déjà la figure de l'autorité du tribunal. De la même manière, vous avez l'emplacement qui va être fait pour permettre à ce que le prévenu soit au centre des débats, qu'il puisse être entendu aussi bien du côté de la partie civile, du côté de la défense, face au magistrat, à proximité du procureur de la République. Donc la place de la personne qui va être entendue, elle n'est pas choisie au hasard. On n'est pas comme dans une classe à dire « vous là-bas au fond, dites-nous ce que vous en pensez ». Quand une personne doit s'exprimer dans le cadre du tribunal, elle vient à un endroit qui est prédéterminé de manière à ce qu'il puisse y avoir une transparence des débats et l'expression d'un dialogue contradictoire pour que chacun puisse être informé. Donc, les palais de justice, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de l'organisation, mais ils traduisent en eux-mêmes des valeurs fondamentales de la justice. Ils permettent une certaine solennité des débats, ils permettent une certaine ouverture, puisqu'on doit aborder l'ensemble des éléments, et puis une transparence, puisqu'on doit tous être face aux mêmes faits. Le juge l'incarne encore plus à travers l'impartialité, et on va essayer de juger. Il y a à cet égard un ouvrage qui est de référence. M. Dumont l'a cité tout à l'heure, l'auteur, qui s'appelle Garapon. Son ouvrage, c'est Bien jugé, c'est Essai sur le rituel judiciaire. Alors, à vrai dire, c'était une thèse qui avait été faite avec le doyen Carbonnier, qui s'appelait L'âne et les reliques à l'époque, et puis l'ouvrage un peu augmenté. Et l'auteur, il rappelle quelles sont un peu les spécificités du rituel judiciaire, et il démontre que les formes du rituel ont véritablement un sens de la distanciation, une certaine manière de canaliser la violence qui a vocation à être traitée dans le cadre des tribunaux. Alors, les palais de justice, pour faire très simple, ils incarnent une certaine figure de l'autorité de justice. L'aspect colonnade, c'est aussi pour démontrer le caractère un peu majestueux, avec le fait, quand on rend la justice, eh bien, il y a une force, mais au sens, on va dire, positif des choses, et non pas la force brute, puisque le droit, c'est l'antinomie, finalement, de la force brute. Et quand on prend le glaive, eh bien, le glaive, n'oubliez jamais qu'il est aiguisé des deux côtés, pas comme le sabre. Le sabre, il n'y a qu'un côté tranchant, alors que le glaive, il y a les deux côtés qui sont tranchants. C'est justement pour exprimer toutes les possibilités de la justice. Donc, le palais de justice, c'est les colonnes de l'autorité, comme on peut l'appeler, parce que dans cette enceinte va s'exprimer la manière de bien juger. Et Garapon, dans cet ouvrage, nous donne un exemple très simple. Il nous dit que quand vous avez des palais de justice qui vous paraissent accueillants, qui vous paraissent majestueux, vous allez à la cour d'appel telle qu'elle a été rénovée aujourd'hui, vous êtes un peu impressionné par ce décorum, bien, vous avez le sentiment qu'une justice de bonne qualité pourra être rendue parce que vous êtes dans un lieu qui, en quelque sorte, inspire justice. Quand vous êtes dans un endroit qui est complètement délabré, eh bien, que vous avez des décisions qui vous paraissent un petit peu bancales, pour le dire trivialement, il y a toujours ce sentiment d'avoir une justice un peu au rabais. Et si, comme le dit l'expression, l'habit fait pas le moine, il y contribue un peu fortement, parce que là où vous avez des palais de justice délabrés, bah, souvent, vous avez une justice qui n'est pas non plus toujours de très bonne qualité. Et c'est comme aujourd'hui dans l'entreprise. Ceux qui ont des bons ordinateurs sont capables de faire des belles compositions graphiques. Bien, dans des palais où vous avez encore des vieux ordinateurs, des vieilles photocopieuses, que vous ne pouvez pas avoir les pièces en temps utile, bien, vous avez une justice qui est souvent de moins bonne qualité. Eh bien, le palais de justice, il incarne aussi la manière dont cette justice va être rendue. Alors, juste pour terminer sur ces palais de justice, je vous conseille, si vous ne le connaissez pas, un formidable ouvrage qui a été fait par un magistrat qui s'appelle Étienne Madrange. Alors, j'ai pris juste la photocopie parce que l'ouvrage, il doit faire à peu près 2 kilos. Il est assez important. C'est un ouvrage qui comporte des milliers de photos. Monsieur Madrange, donc, est magistrat. Il a recherché 700 sites. Il a fait 5400 photos à travers la plupart des juridictions françaises. Et en plus, il a classé toutes ces photos sur le plan thématique. Vous avez l'extérieur des palais, l'intérieur des palais, la manière dont est présenté les pupitres, le bureau du président, la bibliothèque du palais, enfin bref, tout ce qui concerne l'architecture du palais, qu'il vous retransmet sur toute la France entière. Et c'est vraiment un ouvrage qui est très très bien fait et qui nous donne une idée sur cette valeur des palais de justice. Alors, pour être pas trop long, si la justice, elle est rendue dans les palais de justice principalement, de plus en plus aujourd'hui, elle va aussi en dehors des palais de justice, et même les palais de justice se transforment. Alors pourquoi ? Eh bien, là, c'est également une certaine vague un peu sociologique qui se produit, c'est que aujourd'hui, le rapport à la justice n'est plus forcément le même qu'il y a quelques décennies. On est moins dans une justice d'autorité que dans la recherche d'une justice, qu'elle soit économique, qu'elle soit sociale, qu'elle soit relationnelle, pour utiliser un mot qui englobe tous ces phénomènes. Et donc, on essaye de trouver des lieux qui sont moins imposants que certains palais de justice. Je suis allé récemment à la cour d'appel de Colmar. C'est un bâtiment de type un peu bismarckien. Donc c'est sûr que quand vous rentrez dans ces énormes palais avec des escaliers qui font 6 mètres de large, avec des matériaux, c'est tout en marbre, etc., eh bien, vous avez un peu l'impression, en plus quand il fait froid, que c'est un peu glacial. Donc, ce n'est pas propice à avoir une justice qui paraisse très humaine. Ce n'est pas que les magistrats de Colmar ne soient pas humains, mais ce n'est pas quelque chose qui inspire immédiatement confiance à un justiciable qui, peut-être pour la première fois de sa vie, va rentrer dans un lieu de justice. Et donc, aujourd'hui, de plus en plus, on essaye de sortir des situations de justice, des palais, pour essayer de mieux rendre la justice, ou plus exactement, de la faire correspondre aux préoccupations des personnes. Et on voit qu'il y a les maisons de justice et du droit qui ont été créées, mais il y a également de plus en plus des formes de justice qui sont rendues dans divers endroits pour justement essayer de désacraliser cette fonction de justice. Et même si on essaye de sortir du palais, à l'intérieur même des palais, on rend de plus en plus la justice dans des situations qui ne ressemblent plus à celles, de, même pas d'autrefois, puisque sans avoir eu 40 ans d'expérience, même 20 ans, on n'a plus du tout les mêmes salles, on n'a plus la même manière de discuter avec les magistrats. Il y a quelques années, c'était systématique. On est dans une salle avec une distance relativement éloignée du magistrat, on plaide debout, on est face au magistrat debout, qui lui est plutôt assis, mais en élévation. Alors que de plus en plus, même pour des affaires qui sont relativement lourdes, par exemple quand nous sommes en chambre du conseil, c'est-à-dire des audiences qui ont lieu à huis clos, eh bien, on se trouve face au magistrat autour d'une table et on va présenter l'affaire avec le magistrat et le procureur et par exemple à l'autre extrémité de la table quand il s'agit des chambres de la famille, les chambres du conseil et qu'on traite par exemple de tutelle et autres. Et donc on a une justice qui est beaucoup plus de proximité. Alors c'est une évolution qui est notable. C'est une transformation de la manière d'appréhender les palais de justice. Est-ce que, oui ou non, c'est une bonne chose? Je me garderai bien de répondre de manière péremptoire parce que, de toute façon, il n'y a pas de réponse une et définitive. Il y a sans doute des choses positives dans la manière de rapprocher les justiciables de ceux qui rendent la justice, de les faire participer davantage au prononcé de la justice. Il y a en revanche sans doute des points qui sont moins positifs sur une certaine désacralisation de la justice, parce que ça va engendrer derrière peut-être des contestations plus radicales, et puis un langage qu'on entend aussi souvent aujourd'hui, bah, c'est sa manière de voir, je ne suis pas d'accord avec lui, et donc je ne respecte pas sa décision. Alors que cette forme d'autorité, c'était une manière de clore le débat. On avait évoqué il y a quelques années le thème de la vérité, et on avait dit c'est la vérité judiciaire. Mais même si c'est que la vérité judiciaire, c'est une vérité. Et donc il y a un certain consentement à la décision qui a été rendue. Et donc, de fil en aiguille, cette justice qui, en quelque sorte, essaye de s'échapper du palais tout en y étant, elle aboutit à la forme de justice que l'on voit aujourd'hui, qui est de plus en plus la justice médiatique. Parce que finalement, aujourd'hui, des palais de justice, on en a abouti au lieu de justice. Et tout lieu ressemble à un lieu de justice. Et on ne sait plus finalement si c'est un lieu puisqu'il n'y en a plus. Et on ne sait plus finalement ce que c'est que la justice, puisque chacun met une définition derrière la justice. Et ce qu'on constate dans tous ces procès médiatiques qui se font en dehors d'une sphère qui est contrôlée par des procédures dans le cadre du palais, qui est justement l'expression de cette limite, eh bien, ça aboutit finalement à être l'antithèse de la justice. Parce que quand on est dans cette justice médiatique, ce que l'on se rend compte, c'est que celui qui aura le plus accès aux médias, celui qui finalement demeurera le plus puissant, aura souvent de fortes chances d'avoir une décision médiatique, d'opinion, qui sera plus favorable à sa cause. Et donc, la justice médiatique, sous le prétexte d'être une justice plus proche, plus authentique, plus réelle, est souvent trompeuse, voire fallacieuse, et même, je dirais, l'antithèse de la justice, parce que non, elle ne permet pas cet équilibre que les palais ont vocation à assurer. Comme j'ai dit, dans le cadre du procès pénal, nous avons d'un côté la partie civile, de l'autre côté la défense. Et bien là, finalement, dans le procès médiatique, tous les coups sont permis et c'est souvent le plus fort qui l'emporte. Et donc, j'en conclurai pour dire que la justice des palais, ben, c'est pas simplement vouloir concentrer le phénomène de justice dans un lieu qui est pratique pour nous parce que c'est au même endroit, on sait où se retrouver, on sait être dans des situations de confraternité entre avocats, de relation de proximité avec les magistrats qu'on a l'habitude de côtoyer. Les lieux de justice, ce sont plus que des monuments, ce sont aussi des garanties pour les justiciables. Et se remettre dans une enceinte, c'est se rappeler ce qui est finalement permis, ce qui est interdit. Et dans le cadre du procès, ce sont toutes ces règles de procédure qui doivent assurer le phénomène de justice et qui doivent nous permettre d'essayer de mieux juger. Et pour faire le parallèle, et j'en terminerai avec les fameux lieux de mémoire, eh bien, respecter les palais de justice en tant que tels, c'est un peu comme respecter les lieux de mémoire. On a quelque chose qui va au-delà du simple aspect matériel et qui renvoie à un sens. Et c'est toutes les personnes qui vont essayer de travailler à l'intérieur de ces palais qui vont essayer de donner un sens à cette justice pour que le rituel ne devienne pas simplement une routine, mais pour que le rituel judiciaire, tel qu'il est incarné dans les palais, puisse incarner le mieux possible la manière dont on rend la justice.